c'est comme un espèce de baromètre, la balance. Et je me suis dit, mais en fait, on est toutes aliénées, là, comme ça. C'est le pire emprisonnement qui soit, en fait. Comment est-ce qu'on peut se sentir libre et égal des autres si on est sans arrêt en train d'être jugé par nous-mêmes selon un poids qui nous donnerait une bonne ou une mauvaise note pour commencer la journée ou une fringue dans laquelle on pourrait rentrer ou non.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je reçois Lily Barbery-Coulon. Pour ceux et celles qui ignorent qui est Lily, je peux vous dire qu'elle est journaliste beauté, qu'elle a travaillé pour Vogue et Elle, le magazine du monde, et qu'elle a surtout créé en 2010 Ma Récréation, devenue depuis peu lilybarbery.com, un blog beau et inspirant où elle parle de beauté, relate ses voyages et dévoile sa passion pour la cuisine ou encore le yoga. Avec ses 33 200 followers sur Instagram et plus de 8 000 sur Facebook, Lily est devenue ce qu'on appelle une influenceuse. Un mot qui prend encore plus de sens depuis qu'elle a sorti son livre « Pimp My Breakfast » où elle a compilé ses recettes de petit-déjeuner préférées et où elle raconte avec beaucoup de franchise sa descente aux enfers alimentaires et sa renaissance. Après l'avoir écoutée, je crois que vous n'aurez plus envie de vous faire de mal si vous pensez vous en faire. Alors à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Lily.
Hello.
Alors, le hashtag Pimp My Breakfast, c'est ton hashtag. Hein. Il est né d'une façon assez surprenante. Tu peux nous raconter ?
Écoute, il est né il y a quelques années et je ne sais plus exactement à quel moment, mais je pense que ça fait quand même quelques années déjà. Moi, j'aimais bien cette émission très drôle sur MTV qui s'appelait Pimp My Ride et qui consistait à prendre une voiture complètement cassée et à la transformer en voiture de Mac. Parce qu'en fait, Pimp, ça veut dire Mac. L'idée, c'était d'en faire une voiture un peu bling. Donc, ça donnait des trucs un peu frappadingue. Et puis, Pimp, du coup, a commencé à entrer dans le vocabulaire. Et un matin, j'avais vraiment fait un effort de présentation de mon petit déjeuner, je l'ai photographié, je l'ai mis sur Instagram. Et mon idée première, ça a été de mettre le hashtag Pimp My Breakfast avec un petit peu d'humour. Et ce qui a été pour moi assez étonnant, c'est que très rapidement, en fait, ce hashtag a été repris par toute ma communauté qui, dès que mes abonnés se mettaient à faire des petits déjeuners plutôt soignés, elles me taguaient en disant « Ah bah, j'ai pimpé mon breakfast comme Lily Barbery ». Donc, c'est devenu au fil des années, en fait, un espèce de rendez-vous. Et puis, moi, j'y accordais encore plus d'importance, en fait, lorsque j'ai commencé à me questionner sur mon rapport à mon corps, mon rapport à l'alimentation et mon rapport à la pleine conscience et à la méditation.
Et en fait, ce n'est pas un banal livre de cuisine, hein, Pimp My Breakfast. Tu te livres beaucoup, comme tu le fais d'ailleurs dans ton blog. Tu racontes dans ce livre tes petits déj d'enfant et puis ton adolescence et surtout un passage douloureux au cours duquel tu as commencé à vouloir contrôler ton corps. C'est parti de quoi en fait ce combat ?
Alors, ce qui s'est passé, en fait, pour tout te dire, c'est que pendant très longtemps, sur mon blog, je me livrais assez peu. C'était un recueil de bonnes adresses et de bons plans. Et il avait un ton journalistique, parce que c'est ma formation, et que moi, j'ai passé des années à écrire des articles pour le magazine Vogue, et ensuite pour Elle, le magazine du monde. Et donc, j'avais la culture de la distance. Et on me disait souvent, tu sais, un blog, ça doit être incarné. Et moi, je savais pas très bien, en fait, comment incarner, parce que j'étais gênée. Je me disais que mes histoires personnelles n'allaient intéresser personne. Et puis, en 2016, il y a eu un article qui a changé un peu la donne. En mars 2016, ou en février, je crois, j'allais vraiment pas bien. J'étais à l'aube de mes 40 ans et je faisais semblant d'aller très bien sur Instagram et de photographier les buffets des lancements presse les uns après les autres, comme si tout ça était simple. Moi, j'étais la fille ronde, joyeuse de vivre,
qui assumait,
qui était voilà bien dans sa peau. Mais à l'intérieur, moi, j'avais vraiment l'impression de me fissurer complètement. Et un soir où j'avais pas du tout prévu d'écrire cet article, je me suis retrouvée devant des tonnes de photos que j'avais prises avec mon téléphone, de bouffe, hein, de pâtisserie, de buffets les uns après les autres. Et c'était finalement des photos qui fonctionnaient très bien sur Instagram. Et je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que je ressentais et ce que je semblais dire, en fait, à travers mon fil de photos. Et les centres d'intérêt que je partageais sur mon blog. Et du coup, un soir, sans que ce soit prévu, j'ai écrit un très long texte pour raconter combien, en fait, j'allais mal. Et pour raconter tout ce que j'avais fait pour tenter de me sentir mieux. Donc, le point de départ de tout ça, il se situe au moment de l'adolescence. Moi, j'avais pas véritablement eu de problème avec mon poids ni avec mon rapport à l'alimentation. Je mangeais quand j'avais faim, je m'arrêtais de manger quand je n'avais plus faim. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que autour de mes 16 ans, je me suis retrouvée en fait au lycée avec des tas de copines qui faisaient des régimes. Et moi, d'ailleurs, j'avais ma mère à la maison qui faisait énormément de régimes, qui enchaînait et qui testait tout ce qui sortait, que ce soit à l'époque c'était la mode de la méthode Montignac, des régimes dissociés. Donc moi j'étais très habituée à la voir manger un poulet entier parce qu'il fallait manger que des protéines à un repas et puis ensuite un kilo de fromage blanc 0% à un autre avec des espèces de monoproduits comme ça. Je l'ai vu prendre des médicaments beaucoup pour maigrir, des trucs hormonaux qui ont ensuite été interdits. Pourtant, honnêtement, elle n'avait pas tant de kilos à perdre que ça. C'était assez léger, en fait. Mais c'était une lutte permanente avec des phases où je la voyais plutôt bien dans sa peau parce qu'elle avait perdu les kilos qu'elle voulait perdre. Et une autre phase où elle se sentait mal et ça pouvait se jouer à 2 ou 3 ou 5 kilos. Et d'un seul coup, ça foutait sa vie en l'air. Donc, moi, j'ai grandi, en fait, dans cet environnement-là avec quelqu'un qui avait un rapport à son alimentation assez déglinguée et qui n'avait pas en fait travaillé là-dessus. Donc quand j'ai décidé de faire mon premier régime sur un espèce de coup de tête pour suivre les copines, j'étais pas ce qu'on appelle une fille en surpoids du tout. J'avais un IMC tout à fait correct et j'ai trouvé ça génial en fait de perdre du poids et de prendre le pouvoir sur mon corps. Je me suis rendu compte que en plus, en perdant quelques kilos, j'avais attiré l'attention de plein de gens qui me trouvaient finalement plus jolie, plus mince, parce que c'est assez rare qu'on préfère les femmes quand elles sont rondes. En tout cas, c'est le regard extérieur qui est comme ça. Et donc, pour trouver sa place et le ton juste en fait par rapport à son corps, c'est pas l'extérieur qui va pouvoir nous le donner, c'est uniquement nous-mêmes. Mais ça, j'ai mis 25 ans à trouver l'équilibre.
Parce que justement, Tu as notamment dit que tu étais passée par de multiples psychothérapies. C'est pas magique.
Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces premiers régimes m'ont fait perdre du poids. Évidemment, comme ils étaient drastiques, ils m'en ont fait reprendre assez vite. Et puis là, c'est l'escalade et c'est le yo-yo que beaucoup de femmes connaissent. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu, mais on a regagné un kilo une fois qu'on a repris. Et puis alors, du coup, moi, j'ai testé un milliard de trucs en régime, mais aussi en thérapie, parce que de toute façon j'étais une adolescente extrêmement malheureuse, donc à l'âge de 16 ans j'ai dû consulter assez rapidement un psychanalyste à l'époque avec lequel j'ai suivi une assez longue thérapie, mais ça m'a permis de comprendre en fait comment le symptôme fonctionnait, mais absolument pas de le résoudre. Plus tard, j'ai aussi tenté les thérapies comportementales et cognitives, l'hypnose, le MDR, tout en je continuais la surenchère des régimes, c'est-à-dire j'avais bien compris qu'il fallait pas que ce soit trop restrictif, mais bon, après tout, s'il était possible d'en faire un quand même qui miraculeusement pourrait marcher, j'étais pas contre. Ça a été finalement très long de trouver un moment qui soit stable. Et en fait, on me voyait soit avec 10 kilos de moins, soit avec 10 kilos de plus, avec toujours trois tailles différentes dans ma garde-robe. Et en gros, quand j'étais au plus haut, bah, j'allais pas très bien. Et quand j'étais au plus bas, j'avais l'illusion que j'allais bien parce que j'étais en contrôle total, en maîtrise totale. Mais finalement, j'allais pas beaucoup mieux que quand j'étais en surpoids. Je suis arrivée à un stade, après avoir fait une longue thérapie avec de l'EMDR qui m'a beaucoup aidée, je suis arrivée à un stade où j'ai compris que un régime très restrictif, c'était absolument interdit pour moi. D'autant que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire dans ma décennie de la vingtaine, avec des crises de boulimie et des phases où finalement je m'alimentais assez peu. Donc ça ressemblait pas à de l'anorexie véritable parce que j'étais pas en poids qui pouvait faire peur à un médecin, mais finalement j'en avais le comportement. Mais tout ça, en fait, évidemment, je me rendais compte que c'était un peu plus extrême chez moi que chez d'autres, mais finalement c'était partagé par beaucoup de mes copines, beaucoup de femmes autour de moi, et j'avais plein de copines qui me disaient, ouais, enfin, tu sais, moi c'est pareil, hein, je me pèse le matin, si j'ai pris un kilo, ma journée elle est un peu merdique, et c'est comme un espèce de baromètre, la balance. Et je me suis dit, mais en fait, on est toutes aliénées là, comme ça. C'est le pire emprisonnement qui soit, en fait. Comment est-ce qu'on peut se sentir libre et égal des autres si on est sans arrêt en train d'être jugé par nous-mêmes selon un poids qui nous donnerait une bonne ou une mauvaise note pour commencer la journée, ou une fringue dans laquelle on pourrait rentrer ou non. Donc, en fait, en 2016, il y a vraiment eu cette prise de conscience de ça peut plus continuer comme ça. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais parmi les éléments déclencheurs, une de mes amies s'est rendue compte qu'elle avait un cancer assez tôt dans sa vie. En fait, l'avoir changé complètement d'hygiène de vie pour sauver sa peau et pour pas alimenter ses cellules cancéreuses, ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis dit... moi là je me plains toute la journée de mon corps, je le déteste, je lui envoie des messages
pas très
vraiment
sympa.
Et très toxiques, parce que quand chaque matin on se lève et qu'en regardant son ventre on se dit, ah, je suis qu'une merde, j'ai aucune volonté, franchement, mais comment elles y arrivent les autres, moi j'y arrive pas, et puis on commence par un pain au chocolat, puis on se dit, voilà, bah, la journée elle est foutue, bah, foutue pour foutue. Autant y aller. Je pouvais plus supporter d'entendre cette voix qui n'était pas la mienne. Donc, je me suis dit, si ton amie elle est capable de faire autant d'efforts pour supporter son traitement et pour essayer de guérir, moi, là, il va falloir que j'arrête de me plaindre toute la journée, parce que j'étais en bonne santé, malgré tout.
Ouais, c'est ça.
Je pouvais marcher, danser, courir. Et c'était une bénédiction d'un coup. Je prenais conscience que le miracle, c'était d'abord de ne pas être malade. Et comment est-ce que j'allais pouvoir accompagner cette bonne santé-là et honorer ce corps qui, finalement, n'avait jamais failli, m'a permis d'avoir un enfant en bonne santé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, il a fallu que je prenne des décisions assez fermes par rapport à ça. J'avais tenté le non-régime pendant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que j'avais tenté une période de liberté totale. Mais en fait, j'avais quand même beaucoup grossi pendant cette période-là. Et évidemment, comme toute personne qui a des effets yo-yo comme ça et des troubles du comportement alimentaire, toute situation problématique, la perte d'un emploi, un déménagement, un deuil. Alors moi, en l'occurrence, ça a été les attentats. J'avais beaucoup maigri avant les attentats et au moment des attentats, bah alors
c'est
là,
reparti.
Ça a été la dégringolade, parce que chaque repas que je faisais, je me disais, bah, ça se trouve, c'est peut-être le dernier. Donc, autant bouffer autant que je veux. Donc, évidemment, j'ai pris pas mal de poids entre 2015 et 2016. Et ça s'est soldé, donc l'été 2016, en me disant, là, je peux plus.
Faut que j'arrête.
Et je me suis vue, en fait, dans une vidéo... Et je me suis pas reconnue, en fait. Et je me suis dit, là, c'est une vidéo, et je reconnaissais tous mes autres amis sur la vidéo. Je me disais, pourtant, c'est bien moi. Mais je comprenais pas, je trouvais que je faisais 20 ans de plus, mes bras, mon corps, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça, parce que je m'arrangeais pour ne pas me regarder.
C'était en fait comme une dysmorphophobie.
Complètement, mais en fait, on est nombreuses à souffrir de ça, on peut se raconter des histoires. Moi, j'ai eu le même jean en prenant énormément de poids, hein, parce qu'il avait de l'élastane dedans,
ouais, c'était stretch.
Et que j'avais beau me rendre compte quand je m'asseyais plus tellement sur mon jean, mais que j'avais de plus en plus les fesses à l'air et donc j'avais des t-shirts de plus en plus longs pour cacher le sourire du plombier. Mais c'était quand même assez dramatique. Et j'étais dans le déni, enfin dans le déni total de ça. Donc il a fallu que je me voie et que là je me dise ce que je vois là, c'est pas moi, ça me ressemble plus. Donc qu'est-ce que je fais ? J'avais besoin d'un cadre. Alors la première chose, c'est que j'ai rappelé ma thérapeute et j'ai fait quelques séances de MDR qui m'ont fait du bien. La deuxième chose, c'est que je savais qu'il fallait que je trouve un cadre pour me remettre en fait dans un équilibre alimentaire. J'ai choisi Weight Watchers, qui n'est pas la panacée, qui est un régime avec beaucoup de contrôle. Donc moi, c'est pas l'idéal pour moi. L'idéal,
c'est assez paradoxal.
Voilà. L'idéal pour moi est ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle et il y a juste une connexion aux sensations. Mais en fait, quand on part de très haut, dire à quelqu'un « débrouille-toi pour te reconnecter à ton corps », c'est bien gentil, mais moi j'ai tenté en fait pendant des années, j'ai tenté même d'écouter un CD d'alimentation en pleine conscience, j'avais lu beaucoup sur le sujet, l'idée me plaisait beaucoup, mais moi je le ressentais pas. Donc j'ai eu besoin de ce cadre en fait qui m'a permis de perdre déjà quelques kilos et c'est sans doute parmi les régimes le moins restrictif. Alors ils veulent pas appliquer le mot régime,
ça
en est quand même.
C'en
est un, puisque l'idée c'est quand même de manger moins ou de manger différemment, donc on n'est pas dans une liberté totale. En revanche, il n'y a aucun aliment qui est proscrit et ça en fait je pense que c'est quand même pas mal et aussi on peut organiser en fait les choses pour garder une vie sociale et ne pas se priver de sortir et d'avoir un verre de vin si on aime l'alcool, une pâtisserie si c'est ça qui nous fait plaisir. Et je pense que garder le plus de normalité possible, c'est important quand on s'attaque à un chemin comme celui-ci. Donc ça a été, voilà, aller voir ma psy, c'était important pour remettre un peu les choses à plat. Trouver du soutien alimentaire. Et je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est pas le programme Weight Watchers, c'est la réunion à laquelle j'avais.
C'est vrai. Voir les autres participantes.
En fait, il n'y a plus beaucoup de moments aujourd'hui dans la vie où on est réunis avec des femmes qui n'ont rien à voir avec notre milieu social, qui n'ont rien à voir avec nous. Et même si c'était à Paris, dans un quartier chic, finalement, ça a touché des femmes qui travaillaient dans ces quartiers, mais qui venaient pas forcément de Paris, et de tout âge, et avec des problématiques très différentes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un courage et une volonté incroyable chez ces femmes. Et on a beau trouver Weight Watchers ringard, effectivement, moi j'ai des amis qui me disent « Non mais moi je pourrais jamais aller aux réunions ». Et je les comprends, chacun fait comme il veut. Mais moi...
Ça a été ton soutien.
Ça a été un soutien incroyable. Et surtout la fille qui animait, parce que c'est pas le cas de toutes les animatrices Weight Watchers, il y en a que j'ai trouvé épouvantable. Mais elle, celle sur qui je suis tombée, je l'ai trouvée génialiste. Mais parce que c'est une thérapeute par ailleurs. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai pris conscience, évidemment, que je ne pourrais pas faire sans trouver une activité physique qui me plaise. Et je n'avais jamais trouvé un sport qui me plaisait. Honnêtement, je faisais de temps en temps de la gym, des abdos fessiers, je testais des trucs pour les articles que je faisais, mais toujours comme une plaie. Enfin, c'était vraiment... Mais
t'étais pas sportive du tout.
Pas du tout sportive, j'avais horreur de ça. Donc, si tu veux, je me suis retrouvée comme ça à me dire comment trouver l'activité physique qui pourrait me faire du bien. Donc je me suis inscrite à la danse d'abord parce que je rêvais de refaire de la danse. Je voulais danser comme Beyoncé, donc je me suis inscrite à un cours de danse hip-hop. J'étais nulle, mais j'avais beaucoup de plaisir. Ouais, je suis pas très douée en coordination, donc je danse toujours pas comme Beyoncé.
Personne ne danse comme Beyoncé.
Ben si, il y en a, mais enfin, en tout cas, dans mon cours, j'ai eu beaucoup de plaisir et je transpirais. J'étais contente de faire ça. Et une de mes amies qui pratiquait ce qu'on appelle le yoga Kundalini, dont je n'avais jamais entendu parler, me dit : tu devrais vraiment venir avec moi à ce cours. Alors, je dis : écoute, vraiment, le yoga, c'est pas pour moi. C'est trop lent, je m'ennuie, je suis pas assez monacale pour ça. Je sentais que c'était pas mon activité et elle a insisté, mais pendant des mois.
Ah oui,
pendant des mois, elle
du lobbying.
Elle était convaincue que c'était pour moi. Et j'aime beaucoup cette personne. C'est l'une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, ça fait partie
ça
des
a matché,
rencontres.
Ouais.
Bon, voilà. Et je par gentillesse et politesse aussi, j'ai fini par dire OK, j'y vais. Et là, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. J'ai eu une espèce de révélation. J'avais jamais ressenti ça. Alors, ça fait pas ça à tout le monde. Je tiens à le préciser parce que il y a des gens qui ont des révélations comme moi, mais il y en a plein d'autres à qui ça fait rien et qui peuvent se sentir déçus en fait par le fait que j'ai survendu l'activité.
Ah, c'est très personnel en fait. C'est...
Oui. Alors après, c'est quand même une technologie qui fonctionne. Pour se déconnecter, pour se sentir déconnecté, ça fonctionne extrêmement bien. Parce qu'en fait, on est obligé de se concentrer sur tellement d'éléments en même temps. D'abord, on pratique les yeux fermés du début à la fin. Sauf rares exceptions où le professeur demande qu'on ouvre les yeux. Mais la plupart du temps, en fait, on pratique les yeux fermés. Ça évite déjà de regarder les autres et de se regarder soi-même. Et ce cours a commencé, il était accompagné par de la musique. J'ai trouvé la musique très entraînante, très dansante. Moi qui aimais la danse, ça m'a plu, ce rythme-là. Et puis, il y avait plein de mouvements que j'avais jamais fait de ma vie, et pas du tout au yoga, qui mobilisaient beaucoup la colonne vertébrale. Et moi, j'ai eu pendant des années des problèmes de dos. J'étais surprise de voir que j'étais très rouillée, que en fait, quand je faisais du sport, c'était pas du tout des zones que j'allais chercher.
T'as découvert des muscles.
Voilà, j'ai découvert des muscles. J'ai découvert qu'au fil des séances, j'avais finalement plus de souplesse que ce que je croyais. Et puis, on a des respirations assez actives, avec beaucoup de ventilation, du coup. Ça permet de déconnecter assez vite. Et on nous demande de nous concentrer sur la zone qui est située entre les deux sourcils, donc on appelle le troisième œil. Il y a un moment pendant ce cours où j'ai juste lâché et où c'était merveilleux, quoi. Où c'était vraiment super agréable. Je me suis dit, oh là là, c'est drôlement bien la sensation que j'ai en sortant de ce cours. Je vais peut-être y retourner. Et puis j'ai commencé par y retourner une fois par semaine. Et progressivement, j'ai supprimé la danse pour y aller deux fois par semaine. Et au bout de trois mois, j'ai commencé à y aller trois fois par semaine. Devenu une vraie drogue. Je sentais que j'en avais besoin et que les bénéfices étaient fous. Et c'est ce yoga qui m'a permis d'entrer vraiment dans la présence à moi-même à chaque instant.
Y compris dans les moments où tu mangeais.
Oui, ouais, bien sûr. Ouais. C'est là où j'ai compris que d'un seul coup, ça, en fait, je ne peux pas le mettre dans mon corps et ce n'est même pas moi qui décide, c'est juste une évidence. Ça ne rentre plus, quoi. J'ai plus faim, je m'arrête. Et là, les sensations, en fait, elles sont venues se mettre en place.
D'accord. Tu as eu la pleine conscience, le yoga,
Surtout qu'il n'y a pas une solution pour une personne.
Non, voilà, c'est ça.
On cherche, on est un peu comme... j'ai une prof de yoga qui dit souvent que c'est comme un chercheur d'or avec une grosse pierre et puis on y va pour aller trouver en fait ce qui va nous faire du bien. Il y a plein de chemins, il n'y en a pas qu'un seul. Et le mien, en fait, il peut être inspirant, mais il n'est pas un exemple. Il y a des gens qui vont... moi, j'ai une amie qui fait de la barre au sol et ce que je décris dans le yoga, elle le ressent exactement. C'est-à-dire qu'elle est artiste et ça lui a permis de se reconnecter totalement à son corps et en fait, sentir que je suis Lily même dans le bout de mes orteils et pas simplement dans mon cerveau. Et dans une société où finalement on valorise énormément la tête et donc du coup on peut être très intelligent et pas sportif et comme si c'était vraiment deux choses séparées. Alors que, au contraire, en fait, le corps est au service de la tête
connecté.
Et la tête est au service du corps. Enfin, tout est connecté, vraiment.
Et alors toi, tu dis dans ton livre que tu rejettes les dogmes. Bon, c'est pas évident quand même pour les femmes, parce qu'on est sommé toute l'année de faire attention, de perdre de kilos, de suivre le dernier régime, truc mûche. C'est quoi la solution ?
La solution, c'est que... moi, je crois qu'on crée notre propre réalité. J'en suis convaincue. Donc, il faut peut-être se mettre un peu moins de choses nocives dans la tête. Peut-être moins lire d'articles sur ces sujets quand ils sont malveillants et quand ils visent uniquement à perdre du poids. C'est quand même un petit peu dommage, en fait, d'être... Pour moi, par exemple, ce livre que j'ai écrit, c'est pas du tout un livre pour maigrir.
Non, on est d'accord.
Il y a des recettes qui sont très gourmandes, il y en a qui sont un peu plus légères, mais l'idée, c'est de varier le plus possible son alimentation. Parce que ça, je pense que c'est une vraie clé, en fait. Si on s'ennuie pas en mangeant, a priori, on aura de la satiété plus rapidement que si on mange tous les jours un bol de céréales industrielles avec du lait demi-écrémé ou écrémé 0%, qui est, à mon avis, un truc qu'on peut faire de temps en temps mais qui n'est absolument pas bon à la longue, mais comme n'importe quelle répétition. Manger un matcha bowl tous les jours, ce serait complètement idiot, ou j'en sais rien, n'importe quel truc branché du moment, du granola, c'est pas pour tous les jours. L'idée, c'est vraiment de varier.
Et tu insistes énormément sur le plaisir aussi.
Et le plaisir, mais bien sûr, ouais. Parce que je pense que de toute façon, la clé, c'est la joie. Si on n'a pas de joie en mangeant, en préparant la table, si par exemple quelqu'un déteste le décorer ou mettre en scène, mais il ne va pas prendre mes conseils de déco, et il aura bien raison. Il se fera ça rapidement dans un bol, et ce n'est pas très grave, en fait. C'est juste, moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de me sentir mieux. Mais pour revenir sur la pression qui est exercée sur les femmes, quand j'entends des gens dire « Ah oui, la presse féminine... » Mais la presse féminine...
T'es pas obligée de la lire.
D'abord, on n'est pas obligé de la lire, et puis ensuite, il y a des articles intéressants qu'on peut choisir de lire, et il y en a d'autres qui sont peut-être plus pressurisants, qu'on peut laisser de côté. Et
il y a un libre arbitre.
Ouais, et on est grande, on est des adultes, on n'est pas des enfants, on croit plus en Père Noël, on sait que de toute façon, ce chemin-là, il est compliqué pour tout le monde, et même pour les minces. Et j'insiste sur ce point, parce que parmi les témoignages que j'ai reçus, en fait, quand j'ai publié l'article sur ma difficulté avec mon corps, j'ai reçu des centaines de messages, en fait, privés, d'emails, parce qu'il y avait plein de femmes qui n'avaient pas envie de s'exprimer publiquement, qui m'ont raconté leurs histoires. Et c'était fou, j'étais hyper émue, parce que souvent elles m'envoyaient des photos, elles m'envoyaient leurs mensurations. Certaines avaient des corps de mannequins, en tout cas elles ressemblaient vraiment aux critères de la beauté actuelle, qui change au fil des époques,
ne l'oublions pas.
C'est-à-dire que ce qu'on trouve joli aujourd'hui était hideux il y a encore quelques années.
C'est ça,
donc là, on est dans une époque où on valorise l'extrême minceur. Ce ne sera pas forcément le cas dans 10 ou 20 ans.
Ça commence à changer quand même.
Ça commence à changer.
Instagram,
et parce qu'on commence à montrer d'autres corps, même chez les marques, et je m'en réjouis. Mais c'est long, c'est lent.
Et toi, tu as une fille jeune. Comment tu fais pour la préserver, justement, de tous ces diktats de...
Ben, ça va être très difficile parce que, en fait, ma fille, comme toutes les petites filles de 10 ans, même si ce n'était pas notre souhait, elle a découvert YouTube chez les copines. Et puis, finalement, au fur et à mesure, on a bien dû accepter de la laisser regarder certaines YouTubeuses que je ne trouve pas dangereux. Ou dangereux, parce qu'en fait ma fille elle est plus intéressée par les youtubeurs, mais en fait quand elle est sur YouTube, le problème c'est que d'une vidéo à l'autre, il y a un moment où elle tombe toujours sur un truc que nous on n'avait pas forcément envie qu'elle regarde. C'est pas comme la télévision où on peut choisir un programme. Là il y a une espèce de liberté, il faudrait que je sois à côté d'elle en train de regarder
non-stop. C'est ça, c'est impossible.
Donc on cadre en fait des moments où c'est très cadré. Ça peut être que le mercredi après-midi quand elle a pas école, ou le week-end, mais même dans ces moments qui sont très cadrés, il y a des trucs qui nous échappent. Et parmi les choses qui nous échappent, il y a d'un seul coup des idées comme « Maman, tu trouves pas que j'ai des trop grosses cuisses ?» Moi, j'ai entendu ça de la bouche de ma fille.
Elle a quel âge ?
En CM2, donc 10 ans et demi. Ouais. Et alors moi, déjà, pour te dire, je n'ai jamais montré ni dit à ma fille que je faisais attention à ce que je mangeais pendant toute la période d'amaigrissement.
Ouais, elle s'en est jamais rendue compte.
Mais pas du tout. Ouais. En fait, c'est les gens, en disant devant elle... Mais t'as vachement maigri, qui ont commencé à lui mettre la puce à l'oreille. Mais elle, en fait, elle me voyait comme la plus belle des mamans, avec ou sans kilos en trop. Enfin, ça changeait voilà, pas grand-chose pour elle. Et moi, c'était vraiment une vraie volonté. Mais de toute façon, je l'ai pas dit à grand monde parce que je voulais qu'on me foute la paix et qu'on soit pas. Ah non, mais attends, tu manges une banane. Non, mais attends, la banane, c'est hyper sucré. Parce que chacun, c'est comme quand on est enceinte, quand on dit qu'on est au régime, chacun a un avis sur la question.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et il y a rien de plus pénible en fait pour la personne qui est dans son combat ou en tout cas dans sa volonté de changer son corps, d'être voilà, de recevoir ces jugements-là. Donc avec ma fille, j'ai essayé de faire le plus attention possible. Après, bon bah forcément, il y a des choses qui m'échappent, mais il faut surtout apprendre à l'enfant, à mon avis, à faire la différence entre ce qui est festif, exceptionnel, et puis ce qui est la nourriture du quotidien. Moi, je force absolument pas ma fille à manger la même chose que moi parce que elle a pas la même passion pour les légumes que moi ou pour les fruits, mais je lui demande de goûter. Et je crois que je sème des graines au fur et à mesure, en fait. Voilà. Et de lui rappeler quand elle est face à un paquet de bonbons. Écoute, tu choisis le nombre de bonbons que tu veux. Ensuite, on range le paquet. Et en fait, je la trouve assez raisonnable
ouais,
par rapport
fonctionne.
À ça. Je trouve que ça fonctionne
t'as de
plutôt
la chance.
Bien.
Moi, avec la mienne, ça fonctionne pas du tout. Hein.
Bah écoute, ça dépend. Après,
elle
nous,
est plus grande, la mienne.
Oui, alors, tu vois, elle est encore petite et j'ai encore de l'autorité sur elle. Peut-être que dans quelques années, ce sera plus compliqué. Mais, et puis après, je pense que de toute façon, dans l'adolescence, il y a aussi, il y a le besoin de l'excès. Je crois que c'est inévitable, quoi. Je sais pas ce qu'elle gardera tout ça. Ouais. Je pense qu'elle est dans une époque qui est difficile parce que elle est très autour de l'apparence et moi j'y participe aussi. Elle me voit me prendre en photo, donc forcément, je suis pas sûre que ce que je dis et ce que je fais ne soit pas totalement contradictoire. Mais j'essaye, en tout cas, voilà, de lui donner des clés. Pour moi, le plus important, c'est qu'elle me voit fière de moi. Et que elle m'entende pas du matin au soir dire non mais là je suis trop gros, je peux pas porter ça, oh, je suis trop moche, non mais de toute façon ça me va pas, je peux pas porter ça. Je pense que ça elle m'a probablement entendu quand elle était petite, et j'ai beaucoup entendu moi ma mère en fait dire ça, et je pense que ça c'est très difficile de grandir avec une femme qu'on adore. Parce que tous les enfants aiment leur mère, même quand elle est malveillante. Mais est-ce qu'ils sont capables voilà, de comprendre pourquoi cette personne-là ne s'aime pas ? C'est pas possible. Donc, voilà. Je sais pas si c'est voilà, un exemple à suivre. Moi, je fais de mon mieux. Et je crois
qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, de
non, il n'y a pas de mode d'emploi. Et heureusement qu'il y a de l'imperfection, parce qu'elle, elle désirera faire mieux avec ses enfants. De toute manière.
Et est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui veulent profiter de leurs vacances pour pimper leur petit-déj et surtout pour garder cette habitude ? Parce que bon, le faire pendant les vacances, on a plus de temps, on est reposé, c'est facile. Mais après, il faut continuer.
Alors, moi,
dans la mesure du possible.
Contrairement à l'idée qu'on peut se faire quand on voit le livre, ça ne me prend pas tellement de temps. Alors évidemment, je te mentirais si je te disais que chaque matin je fais des crumpets maison ou de la brioche. Ça, c'est vraiment ultra exceptionnel. Et je pense même qu'il va se passer plusieurs mois avant que je refasse une brioche, tellement j'ai galéré pour faire la mienne.
Elle est compliquée. Je vais essayer de la faire, mais...
Wow. Écoute, elle est... La brioche, c'est compliqué. On va
oui.
pas se mentir.
Ouais, ouais.
La brioche,
c'est
difficile. C'est surtout long. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut avoir un petit peu de matos et c'est long parce qu'il y a plusieurs levées et que voilà, ça il faut être en vacances avec des potes pour avoir envie de faire un truc pareil. Donc je pense que je le referai dans les Cévennes cet été, mais avant ça,
no way.
J'irai dans une boulangerie près de chez moi. Pourtant, franchement, d'après mes voisins et mon mari et ma fille, c'est la meilleure brioche qu'ils aient mangée de leur vie.
C'est vrai.
Et mon voisin m'a même dit, écoute, on monte un business à Los Angeles. Il y a plein de recettes dans ce livre que je fais pas tous les jours.
C'est lesquelles
voilà.
tes préférées d'ailleurs ?
Alors, mes préférées, je pense que l'une de celles que j'adore faire, c'est vraiment les pancakes à la banane. Et ça, ça prend vraiment zéro temps. C'est-à-dire qu'on bat un œuf, on écrase une banane et on met 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. On peut rajouter des super aliments dedans, ce qu'on a sous la main, pour colorer, mais aussi avoir un petit apport en antioxydants. On peut sucrer si on a envie. Moi, je trouve que la banane suffit, mais on peut rajouter un peu de miel, de sirop d'érable. Et on peut aussi mettre une cuillère à soupe de lait de coco, ou bien, bon, si on mange des produits laitiers, de la crème fraîche pour avoir un petit peu de moelleux. J'ai même vu que certains rajoutaient de la ricotta ou du fromage à l'intérieur. Donc, il y a plein de manières, en fait, de l'améliorer, hein, et de faire. Mais la base, en fait, elle est la même pour tout le monde. Et ensuite, dans une poêle anti-adhésive, on fait dorer ce mélange. Alors, c'est rare d'arriver à un résultat aussi joli que celui de la photo.
Ouais, les photos, c'est quand même travaillé.
Parce que
hein.
J'ai utilisé un cercle et que du coup, le pancake est parfait. Mais franchement, même si c'est pas aussi joli, c'est trop bon. C'est, voilà. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu de beurre salé dessus parce que ça va faire un effet exhausteur de goût et ça rajoute un peu de gourmandise sur la banane. Et si on la fait cuire avec un peu de beurre salé, ça caramélise la banane en surface. Et ça, c'est en fait, là, je viens de parler de beurre et de miel et tout ça, mais c'est très peu calorique en fait. C'est la banane en fait qui va apporter tout le côté moelleux sucré. Et on peut le faire sans matière grasse. Dans le cadre d'un moment où on est en train de vouloir perdre du poids, ben, franchement, je connais personne qui n'ait pas aimé ces pancakes, et même des gens qui aiment vraiment la junk food. Et puis, bah, ceux qui ont envie d'un truc un peu plus riche, ils peuvent se rajouter, j'en sais rien, moi, de la chantilly ou de la confiture avec. Mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est un truc que j'adore. Et j'adore les porridge.
Ouais.
J'en fais plein avec des céréales différentes. Et ça, c'est pareil. En fait, on peut le faire religieusement à la casserole, à feu doux. Mais on peut aussi, comme moi, le passer au micro-ondes.
Au micro, ouais.
Si vraiment on n'a pas le temps, la base, c'est d'avoir des fruits et d'avoir pas mal de graines. Mais bon, moi, elles sont dans des bocaux. J'en achète une fois tous les 3 mois et ça reste comme ça. Je fais pas de changement tout le temps. Et puis, un granola, on peut en préparer un le week-end. Avec ce qu'on a, on n'est pas obligé de respecter les ingrédients qui sont dans le bouquin. Là-bas, c'est juste qu'il va y avoir forcément des céréales, un oléagineux. Et puis, bon, pour éviter de mettre beaucoup d'huile de coco ou de miel, on peut remplacer par de la compote de pommes ou du jus de pomme, enfin ou un jus de fruit. On peut même mettre de la mangue, voilà, et l'écraser, ou de la banane.
Alors, c'est vraiment selon l'inspiration.
Ouais,
quoi.
Et du coup, on l'a fait un week-end et on va pouvoir le manger toute la semaine. Et puis peut-être de se dire. En fait, moi, je pense que pimper son breakfast, c'est surtout le varier. Donc, on ne va pas manger du granola toute la semaine. Ça, ce serait vraiment tomber dans le piège. C'est plutôt de se dire, bon, bah, ce matin, je me fais un œuf coq, un kiwi coupé en deux. Et puis, je ne sais pas, moi, peut-être ben, un pudding de chia. Mais il y aura peut-être des jours où on aura encore faim pour autre chose. Et l'idée, c'est si on varie, on apprend aussi à apprivoiser sa sensation de satiété. Parce qu'on n'a pas faim pour la même chose tous les jours. Il y a des repas du dîner où on va manger beaucoup et le lendemain matin, on aura peut-être un peu moins faim parce qu'on est encore en train de digérer le dîner. Et le problème, en fait, de manger la même chose chaque matin, c'est qu'on ne prend pas du tout la température de notre satiété ou de notre faim. Est-ce que j'ai très très faim ? Est-ce que j'ai un petit peu faim ? Moi, je me souviens que pendant des années, je me levais, j'allais manger. C'était le premier truc que je faisais.
Réflexe.
Ben parce que je pensais que je ne pouvais rien faire à jeun. C'était pas possible, quoi. Aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, parce que j'ai entamé un gros training de yoga, je me lève et je pratique pendant 1h30 à 2h dans ma salle de bain. Alors, ça paraît un truc de warrior et je dis pas du tout qu'il faut que tout le monde fasse ça. J'ai bien conscience qu'on a d'autres choses à faire le matin. Voilà, comme dormir par exemple. Mais moi, je me lève naturellement très tôt. J'ai longtemps cru en fait qu'en me levant vers 5h30 ou 6h, j'étais insomniaque. Non, il se trouve que j'ai besoin de peu de sommeil. Donc, c'est pas un exemple à suivre pour tout le monde, c'est juste que c'est comme ça pour moi. Et comme je suis dans le cadre d'une formation où je veux vraiment aller plus loin dans ma pratique, je fais des challenges de 40 jours. Alors, le mot challenge, il peut paraître un peu agaçant parce que c'est genre encore dans la lutte et dans le combat et genre moi je relève le défi, mais en fait c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste la formation de yoga dans laquelle je suis, il me demande de faire 40 jours d'un truc en particulier, donc bah, je suis dans un décompte. Donc là ce matin j'ai fait mon 16e jour et En fait, c'est tout à fait possible de pratiquer sans avoir mangé. Et tous ceux qui courent, par exemple, savent que quand on court avec une banane dans le ventre, même juste une banane, on est mal. On a la nausée, on n'est pas bien. Pour pouvoir être vraiment connecté à son souffle, pour pouvoir... ça remue, hein. Donc, on va avoir les organes de digestion qui sont vraiment remués pendant une activité sportive. Et c'est vrai que se lever tôt, aller courir à jeun ou aller marcher à jeun, et ensuite prendre son petit déjeuner, bah, on mange pas pareil.
C'est clair.
Ça veut pas dire qu'on va avoir moins faim, on va peut-être dévorer, mais on n'a pas la même conscience. On est tellement fiers en plus de l'effort qu'on a fourni que c'est vrai qu'on se dit bah, en fait je peux tout faire moi dans la vie. Je vais réussir cette journée là de boulot qui arrive, il n'y a pas de problème en fait. Moi, j'avais pas conscience de ça avant que le sport et que l'activité physique pouvaient apporter autant de confiance. Et d'énergie en fait pour le reste de la journée. On perd pas de l'énergie à faire du sport, on en crée. Hein.
Exact, je confirme. Merci Lily.
Ben, merci Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.